La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Vous avez reconnu la première salutation que le prêtre adresse aux fidèles au début de l'Eucharistie. Il s'agit d'une formule trinitaire qui nomme d'abord Jésus, la grâce de Jésus notre Seigneur, Jésus qui est le Fils, puis qui évoque le Père, l'amour de Dieu le Père, et enfin l'Esprit Saint, la communion de l'Esprit Saint. C'est aussi une citation biblique du verset final de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Cette salutation, dans le missel latin, paraît à première vue tout à fait conforme à cette traduction, à moins que ce soit l'inverse. Gratia Domini Nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. On remarque juste que Jésus-Christ dans le texte latin, donc devient Jésus simplement dans le texte français, et qu'en revanche, la charité de Dieu, caritas Dei, dans le texte latin, est explicitée en amour de Dieu le Père dans le texte français. Mais on voit que les deux formules, française et latine, se correspondent vraiment très étroitement. Pourtant, à y regarder de plus près, une autre petite différence se manifeste. Ce qui est rendu par la communion de l'Esprit-Saint en français est « communicatio sancti spiritus », c'est-à-dire, semble-t-il littéralement, la communication de l'Esprit-Saint. D'où une question. Ces deux expressions sont-elles synonymes? Est-ce la même chose de parler de communication de l'Esprit-Saint et de la communion de l'Esprit-Saint? Une idée géniale s'impose. Le Nouveau Testament, figurez-vous, n'a été écrit ni en français ni en latin, mais en grec. Puisque cette citation est dans la finale de la deuxième épître aux Corinthiens, allons trouver dans la version grecque la solution. Sera-ce communication ou communion? Le mot que l'on découvre, alors, koinonia, revêt l'un et l'autre sens et signifie même encore participation. Nous sommes donc dans une impasse philologique qui nous oblige à nous poser à nouveau frais cette question et, plus généralement, hors du cas même de l'Esprit-Saint, quel rapport existe-t-il entre la communication et la communion? Le point de vue de ma communication, tiens, revoilà le mot, s'inscrit dans le thème général « médias et rencontres humaines ». Il semblerait bien que la communication puisse se rapporter aux médias et la communion aux rencontres humaines. Il se pourrait donc que le propos ne soit pas complètement d'emblée hors sujet. Se pose tout de même la question annexe de la légitimité de cette prise de parole. Si l'on se réfère à l'identité affichée sur les tracts, dominicain, recteur de l'Institut catholique de Toulouse et professeur de théologie morale, participant d'ailleurs à ses différents titres à quelques entretiens à Radio Présence, béni soit cette radio, cela donne quand même peu de qualifications pour intervenir sur un tel thème. Peut-il y avoir d'autres raisons pour cela que l'humour et la ténacité du frère Jean-Marc pour m'embarquer dans un kidnapping aussi risqué, me plaçant par exemple dans le voisinage intimidant d'un directeur de radio et d'un directeur de rédaction d'un grand hebdomadaire. Je me plais à penser, cependant, que mon incompétence avouée peut être une aide, car, après tout, nombre d'entre ceux qui m'écoutent ne sont pas plus des communicants professionnels que moi. Nous communions donc d'emblée dans cette lacune. Et d'autre part, si dans un premier temps, je monopolise quelque peu la communication en vous délivrant une communication sur la communication, une communication au carré, viendra ensuite le temps des remarques, des questions, des objections, d'une communication désormais partagée. J'ai horreur de me poser en théologien, en philosophe, en moraliste. Avoir un diplôme dans ces disciplines et les enseigner est loin de suffire pour prétendre à ces titres. Dira-t-on de n'importe quel tâcheron martyrisant un instrument qu'il est un musicien et du plus farfelu des improvisateurs qu'il est un compositeur ? Mon point de vue essaiera de n'être pas celui d'un spécialiste, mais celui d'un chercheur de sens. D'abord le sens des mots. Que veut dire communication ? Que veut dire communion ? En espérant qu'à travers le sens des mots vienne à se dessiner le sens des choses. La tâche est donc fort simple. On prend le mot comme on regarde, comme on sent, comme on palpe un objet ou comme on écoute un son. C'est une sorte de phénoménologie pour les nuls. Mais cette tâche est en réalité passablement complexe. La preuve, la simple question de la communication en contient d'emblée trois. Qui communique, quoi, à qui ? On voit donc qu'isoler le quoi du qui en amont et du qui en aval invalide toute réflexion sur la communication. En d'autres termes, celle-ci n'est pas assimilable, n'est pas un contenu assimilable à une chose. Elle exprime qu'une personne est en relation avec une autre personne. On feint d'accorder une importance prépondérante à ce qui est dit, alors que parfois le plus important est simplement d'adresser la parole à quelqu'un. Une réconciliation passe souvent par des mots dérisoires qui ont pour seule importance de renouer la communication rompue. Alors, qu'est-ce que la communication ? Dans un contexte profondément marqué par l'utilitarisme, communiquer apparaît souvent comme un moyen intéressé, voire même manipulateur. On parle parfois de publicité mensongère. Mais sans aller jusque-là, on sait bien que tout produit vanté est enjolivé, en sorte qu'une bonne communication, dans le cadre de la publicité, du marketing, du fundraising, suscite à la fois une certaine admiration et une certaine méfiance. Elle est souvent une habileté au service d'un dessein mercantile. La bonne communication dope la vente. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'il faut savoir se vendre ? Langage qui connote pas moins que la prostitution. Le terme de communication dans notre société est donc largement compromis par un usage dominateur où le communicant cherche à annexer son interlocuteur à ses propres fins. On est alors très loin d'autres types de communication, comme celui de la palabre africaine. De plus, la communication marchande, ou plutôt mercantile, sait flatter les désirs qui pousseront à l'achat. Quel chauve ne voudrait pas retrouver des cheveux? Quel seigneur ne voudrait pas redevenir jeune et beau? Quel obèse ne voudrait pas recouvrer sa sveltesse d'antan? La communication promet, illustre, prouve que, moyennant le recours à tel produit de telle marque, le miracle ne peut pas ne pas avoir lieu. Si, comme disait Aristote, la vertu est non seulement ce qui rend bon ce que l'on fait, mais bon aussi celui qui le fait, alors la communication semble bien n'avoir rien de vertueux, rien de moral, car personne ne viendra à considérer qu'un bon communicant est un homme bon, purement et simplement. Il peut même être quelqu'un de très rusé et expert à atrophier mon portefeuille. Il est bon, comme on le dira, d'un bon faussaire de billets. Bref, non seulement pareille communication semble amorale, mais elle paraît non moins tendre à être immorale, comme un marchand d'illusions qui ne manque pas de faire croire par certains mails à de pauvres gens crédules qu'ils ont gagné une somme importante au loto, ou pire, qui les attendrissent sur le sort d'une pauvre veuve qui a besoin de votre entremise pour pouvoir toucher l'héritage de feu son richissime mari. Cette vision pessimiste d'un certain sens spontané de la communication se focalise sur la personne qui communique et sur l'inégalité de ceux à qui elle délivre son message pour mieux les duper. Cette vue connote donc aussi un aspect de mensonge, de rapt et de viol. Elle pose la question cruciale de l'objectivité, des raisons de se fier ou de se défier. Le lecteur de la Dépêche du Midi, l'auditeur de France Info, le spectateur de TF1, celui qui reçoit des tracts électoraux, qui assiste à un meeting politique, à une homélie dominicale, ou à une intervention à l'université d'été de Castanet-Tolosan, sait bien qu'il faut en prendre et en laisser, qu'il ne faut pas croire sur parole et donner le bon Dieu sans confession. Il n'empêche qu'il est bien obligé de s'en remettre à toutes ses autorités, tout en sachant que la vérité est présentée, interprétée, tronquée, déformée, et parfois fabriquée contre toute évidence. La communication a ainsi partie liée avec la parole. La parole, si belle comme promesse d'alliance tenue ou recouvrée, est si funeste comme ruse mensongère. Elle est indispensable, mais tellement discréditée qu'elle en devient inaudible. Comment peut-on croire aujourd'hui un politicien, un journaliste, un religieux, un banquier, et demain un juge et un médecin? Qu'il soit bien clair que cela n'invalide pas la communication en tant que telle, si nécessaire à toute œuvre éducative et à tout projet social, mais cela souligne sa fragilité, sa facilité à servir des desseins égoïstes. Se pose donc de nouveau la question de la bonne communication. Elle peut être bonne au plan de l'efficacité, de la performance, sans être bonne moralement. Et les choses sont difficiles à cerner et à discriminer. On pourrait dire qu'une bonne communication est celle qui a l'air sincère. Mais ce peut être une sincérité réelle qui nous convainc intérieurement que cette personne, que l'on dit d'autant plus présumée innocente qu'on la présume coupable, ne peut pas être responsable des turpitudes qu'on lui prête. Ce peut être aussi une sincérité affectée, artificielle. Et cela se subdivise encore en fausse sincérité légitime ou fausse sincérité illégitime. Fausse sincérité légitime, c'est celle de l'acteur. On lui demande de nous faire croire au rôle qu'il joue, de nous rendre dupes et complices de son artifice. Mais c'est convenu entre lui et nous. Autre est la fausse sincérité de celui qui, dans les yeux et la main sur le cœur, vous jure que jamais, au grand jamais, il n'a dissimulé un compte au fisc. N'existe-t-il pas quelques saines communications où son destinataire ne serait pas d'emblée victime d'un escroc charmeur? Heureusement que si, cette communication existe, même si les dérives restent toujours possibles. Si communiquer veut dire, entre autres, transmettre, il apparaît qu'un autre nom, meilleur, pourrait lui être assimilé, celui du don. Communiquer, c'est donner, une information notamment. Ce rapprochement permet ainsi de munir la communication d'un critère éthique. Elle est bonne moralement parlant, pour autant que le don qu'elle traduit est bon lui-même. Mais donner n'est-il pas toujours bon? Assurément pas, et je donnerais volontiers une paire de claques à tout contradicteur pour le convaincre de mon propos. Encore que celui qui donne une paire de claques à tout contradicteur puisse le justifier par le fait que c'est bien intentionné, pédagogique par exemple. Toujours est-il qu'un don mal intentionné ne répond pas à notre critère. Donner du poison n'est pas une bonne action. Autrement dit, le don est un critère éthique de la communication, mais le don a lui-même besoin d'un critère éthique. Il ne suffit pas qu'il y ait don pour que tout soit idyllique. Il faut regarder plus avant, au moins ce qui est donné et pourquoi. Voilà donc que la timide solution avancée, à savoir regarder dans la communication le don, ne nous guérit pas totalement du pessimisme premier de mon propos. Car le don, qui a été tellement magnifié depuis Marcel Mauss jusqu'à Jean-Luc Marion, ne jouit pas plus d'une impeccabilité, d'une infaillibilité que la communication. Autrement dit, le don se prête aussi à des échecs grandioses, pour ne pas dire cuisants. Qui ne l'a expérimenté une fois ou l'autre dans le don d'une confiance mal placée? Quelles sont donc les conditions d'un don infructueux, d'une communication ratée? Une première, celle à laquelle je suis enchaîné à l'instant, est le monologue. On peut le supporter avec patience, à condition qu'il laisse enfin place à autre chose. Sinon, il est un spectacle, mais pas une communication. Et il peut induire une formidable frustration. Celle, par exemple, de la vie ordinaire, où celui qui vous appelle au téléphone vous annonce vouloir échanger avec vous des nouvelles, ce qui vous réjouit, et vous quitte brusquement après vous avoir donné les siennes, sans même prendre la peine de vous demander les vôtres. Il est heureux de vous avoir longuement parlé de lui, mais il vous donne le sentiment d'un formidable égoïste qui ne se préoccupe nullement de ce que vous devenez. Il a la prétention de vous avoir partagé des nouvelles, mais c'est un curieux sens du partage, complètement unilatéral. Une sorte de béquet qui se traduira éventuellement de manière triviale dans votre esprit comme « il m'a gavé ». Le don qui s'exhibe, qui se complaît dans sa générosité, sans le souci de faire exister l'autre, est irritant jusqu'à la violence. Un certain colonialisme et plus généralement l'attitude paternaliste relève de cela, même si une note de condescendance vient encore aggraver le cas. L'envie frénétique de la victime de cette communication en forme de monologue est de couper la parole, de dire « tais-toi, moi aussi je veux parler, écoute-moi, soyons en position d'égalité et de réciprocité ». Ce point de vue de l'expérience basique coïncide avec ce que la révélation nous dit d'elle-même. La révélation, c'est la communication faite par Dieu. Donc, a priori, ce ne doit pas être trop raté. Et il pourrait y avoir avantage à s'en inspirer. Or, que voit-on ? Tout le contraire d'un monologue. Dieu s'adresse à son peuple et à chaque homme, mais il lui donne la parole. Il le laisse parler, il lui demande de le faire. Il lui annonce une alliance, mais il lui demande de la ratifier. Il lui promet, mais il sollicite une fidélité réciproque, même si bien vulnérable. La communication de l'Esprit Saint, pour reprendre une formule de l'introduction, n'a donc rien d'écrasant. Elle respecte la liberté, mieux, elle l'interpelle et la suscite. Et si l'origine première est dans la personne du Père qui donne sa parole qui n'est autre que son Fils, force est de constater que ce Père n'a rien de paternaliste, que celui qui fait de nous ses enfants ne nous infantilise pas, que celui qui nous crée nous invite à être avec une délicatesse confondante. Oui, Dieu sait vraiment donner la parole, mieux que quiconque. Lui seul le fait à la perfection. En lui est la perfection du don et par là même le sommet absolu de toute communication. Aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, est-il si douloureux de constater les déficits et les pathologies de la communication au sein de l'Église, du peuple de Dieu. C'est comme contre-nature, anti-divin. La mauvaise communication est un contre-signe quand elle concerne les chrétiens. Pensons aux terribles paroles de la lettre de Jacques sur les méfaits de la langue, la calomnie surtout. Si la communication vaut par le don, celui-ci doit encore être bon à la manière de Dieu, non à celle du monologue ou du paternalisme. Comment alors le caractériser lorsqu'il se présente sous les meilleurs auspices? Une autre notion émerge ici. Pour être bon, le don doit être authentiquement partage. Pour reprendre l'exemple précédent, celui qui m'a donné uniquement de ses nouvelles me les a partagées au sens qu'il me les a transmises, mais nous n'avons rien partagé tant que je n'ai pas pu placer un mot. Il s'agit donc de passer d'une communication-transmission unilatérale et verticale descendante à une communication-partage bilatérale et horizontale. En d'autres termes, substituer à une communication monologue une communication dialogue. La communication dont il s'agit doit donc s'effectuer sur fond de réciprocité et de parité. C'est un vrai défi et presque impossible. Cela suppose d'écouter l'autre et de le valoriser au-delà de ses capacités d'expression. Il peut en effet y avoir un véritable impérialisme de la parole. Un rhéteur puissant, je ne dis pas un recteur, hein, un rhéteur puissant peut vous terrasser par sa facilité d'expression, même s'il n'a rien à dire. À l'inverse, bien des gens n'ont pas vraiment les mots pour dire les richesses qu'ils portent dans leur esprit et dans leur cœur, et le travail de leur auditeur est d'extraire les pépites précieuses dans le minerai apparemment grossier de leur élocution hasardeuse. Il y a même des cas où toute communication verbale est défaillante ou inopportune. Une grande souffrance demande la communication d'une présence, d'une caresse, d'un baiser, et non de raisonnement et d'explication à la manière des amis de Job. On touche ici à une limite du point de vue précédemment exprimé sur la nécessité du dialogue. Pour nuancer le propos, je dirais donc que la communication doit nécessairement se faire dialogue, mais là où le dialogue est possible. Il ne l'est malheureusement pas toujours. Le patient atteint de sclérose latérale amyotrophique, l'accidenté en étape aussi relationnelle, par exemple, sont privés de toute possibilité d'émission. Et cela risque de décourager toute communication, faute de dialogue possible. Pourtant, les respecter dans leur dignité, dans leur humanité, impose de résister à ce découragement, de ne pas se lasser de s'adresser à eux, alors même qu'ils ne peuvent pas s'adresser à nous, de se réjouir du moindre signe ténu d'une présence active. Je me souviens ici de ma mère atteinte de la maladie de Charcot et n'ayant donc que les paupières des yeux de mobile et qui ouvrait doucement et douloureusement les yeux quand je venais la voir. Communication bien pauvre et crucifiée, mais ô combien plus dense que bien des flots de paroles insignifiantes. Il reste que lorsque le dialogue est possible, il est la voie de la communication sincère et droite. Je suis souvent émerveillé par le savoir-faire des journalistes de Radio Chrétienne, comme Radio Présence, deuxième page de publicité, lors des émissions où je suis invité, et qui savent à la fois laisser parler et également enchaîner avec fluidité les questions dès que la réponse atteint à son point d'achèvement. Avouons que l'on n'a pas toujours le même sentiment par rapport à certains débats télévisés où journalistes et politiciens se coupent mutuellement sans cesse la parole. Quant au débat parlementaire, il semble souvent la quintessence de la caricature du dialogue, des monologues qui s'affrontent et s'efforcent de s'imposer par vocifération convenue. Les communications anarchiques qui interfèrent entre elles deviennent alors littéralement une cacophonie. Il y a donc des règles du jeu à respecter. Il est significatif que des colloques enchaînant des conférences indigestes prévoient des présidents de séance, alors que des tables rondes ou autres formes de débat programment des modérateurs. Quand la parole est unilatérale, il suffit de présider. Quand elle va et vient, cela semble dangereux, il faut modérer. Dans l'un et l'autre cas, la tâche consiste d'ailleurs prioritairement, pour le président de séance ou le modérateur, à consulter sa montre et à faire passer des petits papiers avertissant que le temps de parole approche de sa fin, est déjà terminé, qu'il faut plus que conclure, etc. À bien y regarder, l'égalité du temps de parole entre les interlocuteurs présente un caractère quelque peu factice, car on peut dire beaucoup en peu de mots et peu en beaucoup. Dans un débat, on retient souvent une seule phrase qui fait vraiment mouche. Vous n'avez pas le monopole du cœur. D'autre part, on se plaît à penser que les dialogues ne sont pas nécessairement des joutes où l'ambition serait de terrasser un adversaire ou de remporter un concours. Un dialogue amical a-t-il besoin de compter à la seconde près les durées d'intervention de chacun? Quelle que soit la forme du dialogue, on constate tout de même un certain idéal d'équité. Simplement, celle-ci va de soi en régime de dialogue amical et elle doit s'incarner dans des règles ratifiées en cas de débat risquant d'être discourtois. Nous sommes maintenant, à partir d'une réflexion critique sur la communication, en mesure d'aborder la notion parente de communion. La communication que nous voulons promouvoir est un don, avons-nous dit, et le don est partage. En méditant sur les échecs de ces réalités, nous découvrons que nous sommes renvoyés à la racine du don, à savoir à l'amour. Un don qui ne procède pas de l'amour comme de son motif premier n'est qu'une imposture, car le don a vocation à l'altruisme. Le don est pour celui à qui l'on donne. Un don qui met prioritairement en valeur le donateur, qui ne traduit pas une bienveillance gratuite, n'est pas un don, mais un investissement. Plus l'amour est là, moins la communication nécessite de moyens. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de communication, mais qu'elle peut être davantage présence que parole. Des personnes qui s'aiment se comprennent à demi-mot et même sans mot. La télépathie amoureuse le montre bien. Dans ce cas idéal, la communication laisse place à la communion. Plus exactement, il existe une sorte de va-et-vient de l'une à l'autre. La communion, c'est l'amour qui unit. Elle est donc au principe de la communication vraie. Nous l'avons vu à contrario. Une communication qui n'est pas aimante n'est pas vraie. La communion fonde la communication. Mais l'inverse n'est pas moins vrai. La communication fonde la communion. À force de considérer que l'amour va de soi, n'a pas besoin de se dire ni de se prouver, à force de ne pas ou de ne plus communiquer, des personnes se découvrent étrangères l'une à l'autre. Qui plus est, on sait que dans les situations de tension entre personnes comme entre États, la première chose à laquelle il faut pourvoir, c'est d'établir une communication, de faire en sorte que les adversaires se parlent et, si possible, se rencontrent. La communication est un auxiliaire de la paix. Elle désarme la violence, à condition d'être dans les conditions de réciprocité, de partage, de dialogue qui ont été mises en évidence. Sinon, elle risque bien sûr d'être une propagande unilatérale et délétère. Communication et communion disent donc des choses très proches, mais avec d'utiles accents complémentaires. La communication dit une action. Elle connote le dynamisme et la vitalité, ce qui peut être bénéfique ou non d'ailleurs. La communion dit davantage un état, une stabilité heureuse, qui peut être un sommet ou un plateau, qui peut devenir aussi ronronnante et illusoire. Mais en réalité, comme l'expérience des relations humaines le prouve, la communion ne peut jamais être purement statique. Sinon, elle vient à s'anémier, à se déliter et à mourir. La raison est qu'elle est une relation entre vivants et que la vie impose un dynamisme. Par conséquent, la communion est une convergence à créer au jour le jour entre les dynamismes de cette personne vivante. Et cette convergence est un ajustement constant. Rester en communion, c'est rejoindre sans cesse l'autre dans son devenir et le laisser me rejoindre dans le mien. C'est le sens profond de l'expression fréquente dans l'Évangile et les Épîtres de Jean, « demeurer dans ». Le Père demeure dans le Fils dans le Père, et la même inclusion mutuelle vaut du Christ et de ses disciples. Si les deux personnes qui s'aiment ne changeaient pas ensemble, si l'une d'elles restait fixe pendant que l'autre avançait, il s'opérerait une distanciation fatale qui, une fois la limite d'élasticité atteinte, provoquerait une rupture brutale. La communion demande donc que chacun aille à la rencontre de l'autre et le rejoigne sans jamais pouvoir l'étreindre définitivement. Cette loi d'impermanence heurte tellement l'aspiration au bonheur stable que certains amants préfèrent mourir ensemble que de risquer de vivre séparément. Paradoxe que de ne pouvoir communier que dans la mort, alors que la communion dit précisément l'enrichissement mutuel de deux existences, la synthèse de deux vies. Il faut donc résolument penser la communion en termes de dynamisme, de vie, et donc de trésor fragile. Seule une communion divine porte cette richesse de vie sans menace de mort, car il s'agit d'une vie éternelle. Mais, dans tous les cas, la communion est une communication circulante entre le « je » et le « tu », comme des amoureux se donnent inlassablement et mutuellement leurs baisers, comme si l'étreinte seule devenait étouffante et demandait d'augmenter cette stabilité par des actes sporadiques de contact. Combien de communications apparemment les plus brillantes, les plus efficaces, par leur unilatéralité dominatrice, se trouvent aux antipodes de cette circulation caractéristique de la communion. Toute la pédagogie, par exemple, pourrait être revisitée selon ce critère. Beaucoup des exemples apportés en illustration de notre thème ont insisté sur la bilatéralité, sur la réciprocité, sur le va-et-vient et la circulation entre deux personnes qui s'aiment. Il importe en effet de décentrer la communication de l'égoïsme dans lequel elle se joue souvent et de l'ouvrir vraiment à l'autre et à l'autre de l'autre, moi, et cela au minimum avec parité et équité et au mieux avec bienveillance et désintéressement. Cela, c'est l'apport de l'expérience humaine. Mais l'expérience divine, celle du moins de la prière et de la charité, je laisse nos phénomènes mystiques habituels de côté, cela nous apprend à compter jusqu'à trois, à penser la communion autrement que dans le seul face-à-face. À vrai dire, nous avons déjà commencé à le faire en nommant l'amour en plus des personnes. En Dieu, c'est l'Esprit Saint qui est amour, mais qui est aussi personne. Et sans rentrer dans d'infinis débats de morale conjugale, convenons que, d'une manière ou d'une autre, toute union tend à une extériorisation, à une fécondité, y compris bien sûr dans le cas du célibat consacré et de l'union à Dieu. Si la communion va avec la vie, l'union, qu'elle soit à Dieu ou à quelque humain, incline vers le don, en sorte que l'égoïsme à deux ne peut pas être le dernier mot de la communion, et que la communion déborde, pour ainsi dire, en constitution d'une communauté. Le couple aspire naturellement à la famille, même dans des formes alternatives de couple ou de famille. L'union crée la communauté. Inversement, la communauté postule l'union et s'enracine en elle. Nous trouvons ici une difficulté par rapport à des sociétés où prédominent des comportements communautaristes. Les structures de base sont certes des communautés, mais qui viennent à s'affronter, non seulement entre elles, mais avec la grande communauté nationale, parce que l'on peine à trouver un facteur d'union qui transcende les appartenances particulières. On y oppose alors, avec une grande confiance envers le legs de la Révolution française, les valeurs républicaines. Le problème est que celle-ci laisse de marbre ceux à qui on pousse la chansonnette de la Marseillaise. Ne pensons pas que la société civile est le triste monopole de la chose. Nombre d'évêques sont affrontés à la même impossible tâche de réunir les paroisses, les mouvements charismatiques, les fidèles traditionalistes, les prêtres, les diacres, les religieux, les laïcs, les vieux, les jeunes, ceux qui ne jurent que par Vatican II, ceux qui le détestent et ceux qui n'en ont cure. Et ce manque de communion est évidemment le frein le plus puissant à la nouvelle évangélisation. Voyez comme ils ne s'aiment pas, aurait-on tendance à dire. Si telle est la situation de l'Église locale, force est aussi de mitiger l'enthousiasme premier et salubre à l'égard de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux. Pourtant, rien n'est ici inéluctable, et l'on pourrait aussi énumérer une impressionnante litanie de rencontres improbables, de poignées de main inédites et de compagnonnages étonnants. Car si à notre faiblesse humaine vient volontiers s'ajouter l'œuvre du diviseur, diabolos en grec, en contrepoint, l'esprit de communion, esprit d'amour et de vérité, vient rassembler les enfants de Dieu dispersés. C'est lui le grand communicant. C'est parfois spectaculaire, comme à la Pentecôte, c'est souvent aussi dans la discrétion parfaite de l'intime du cœur. Dans tous les cas, c'est lui qui, en se donnant, nous donne de nous donner, et ce faisant, il suscite et cimente la communion à travers nos libertés. Il ne scotche pas nos cœurs les uns aux autres, mais il nous procure la conviction d'être des frères et l'envie de vivre comme tels. Pour cela, il fait œuvre en nous de réconciliation. Il nous inspire le pardon. Il nous hisse à une communication qui sait taire le reproche même fondé pour prendre soin de l'autre. Y a-t-il plus belle communication que celle de combattants ennemis capables de fraterniser le temps d'une trêve ? Oui, il y a mieux encore, la trêve reconduite, l'amnistie magnanime, sans léser toutefois les droits d'une justice que nul ne peut sacrifier sur le dos d'autrui. Vu ainsi, la communion interroge l'opportunité de la communication. Dans le flot des nouvelles quotidiennes, quelles sont les communications constructives ? Quelle est la part de la curiosité malsaine et de l'attrait mercantile du scoop qui accroîtra l'audience ou les ventes ? Un effet de toute cette réflexion pourrait être d'instaurer le réflexe salutaire d'une question récurrente. En quoi cette communication sert-elle la communion ? Dans bien des cas, sans doute, nous ne serons pas en mesure de répondre positivement, et pire, dans nombre d'autres, s'imposera l'évidence d'une réponse négative. Il ne s'agit pas ici de plaider pour quelque censure que ce soit, même pour l'autocensure, mais se demander chacun pour soi-même quelle finalité est poursuivie et si l'horizon n'est que l'intérêt du communicant de celui à qui il s'adresse. Communion est un mot très humain, mais riche aussi d'un point de vue théologique. Je voudrais, pour terminer, simplement rappeler que ce terme de communion désigne donc le rapport intime entre les trois personnes divines. Quelqu'un d'habité par cette Trinité, habitué à la contempler, ne peut donc être qu'un être de communion, un de ces bienheureux artisans de paix qui seront appelés fils de Dieu. Cela sera peut-être discret, peut-être imperceptible à notre conscience, mais il nous faut avoir cette conviction ferme que cela sera, que celui qui vit de la communion trinitaire sera lui-même un artisan de communion. Cette communion trinitaire laisse aussi une trace permanente et sacramentellement efficace dans notre vie, la communion eucharistique. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, a la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui communie à mon corps et à mon sang, communie à la vie de Dieu. L'Eucharistie est le lieu de la plus haute communication qui soit, l'auto-communication de celui qui peut dire « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime ». Il ne communique pas quelque chose, il se communique totalement. Le Christ est le modèle des communicants. Il le fait d'une manière admirable, même si, et paradoxalement, c'est de manière défigurée. Et puis, nous connaissons bien la formule puisée aux écrits du père de Lubac, l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. Communion, c'est aussi le grand mot par lequel Vatican II décrit la vie intime de l'Église elle-même. L'Église est un mystère de communion. Alors, il y a aussi à réfléchir par rapport à cela sur le déploiement des nouvelles technologies, la manière dont la communication dans le monde moderne a un impact sur la vie de l'Église. Nous-mêmes, eh bien, nous puisons à cela, nous puisons des informations aux médias, y compris sur la vie interne de l'Église, alors que la communication jusqu'ici était surtout descendante, verticale. Elle se fait maintenant par les réseaux sociaux et autres moyens. Nous avons certainement à penser cela dans le cadre de notre vie ecclésiale. En conclusion, la tentation est grande d'appliquer au monde religieux le schéma de la communication que nous connaissons dans le monde profane. Ce faisant, nous pouvons espérer faire gagner l'Église en efficacité et modernité. Nous risquons aussi d'importer les pathologies de notre société, car la communication qui est l'objet, qui est dans ce monde moderne, est l'objet de manipulations funestes. Un chemin complémentaire se dessine, celui que je vous ai proposé, celui du recul critique sur notre expérience d'homme et de chrétien, pour discerner les conditions d'une bonne communication, celle qui favorise la communion dans l'amour. Même dans un domaine aussi nouveau et aussi technique, on découvre alors que l'on peut recevoir aussi à ce sujet une lumière de Dieu. Merci pour votre attention.